Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leïla, fondatrice de la Mindful Academy, et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Le podcast Vivre fête ses 2 ans. Waouh, déjà 2 ans passés auprès de vous. C'est du pur bonheur et je suis en train d'enregistrer un épisode miracle. Alors pourquoi c'est un épisode miracle? Parce que mon bébé a actuellement 2 mois et demi et elle ne dort presque jamais en journée. Donc cela fait, je pense, la 10e ou la 11e fois que je suis en train d'essayer d'enregistrer cet épisode. J'ai même changé de sujet 2 fois. Et si ça se trouve, c'est peut-être une bonne chose qu'elle se réveille toutes les 2 minutes parce que cela a vraiment changé tout le déroulement de l'épisode et a complètement changé le sujet. Après le premier enregistrement, le deuxième enregistrement, etc., j'ai écouté le podcast de Manel Bernossi, Leaders on Purpose, et plus précisément l'épisode qui est sorti en septembre où elle avait décrit justement ce que une année de podcast lui a appris. Et j'ai trouvé cet exercice super intéressant. J'avoue que je n'ai jamais fait cet exercice sur le plan personnel, de me dire comment s'est passée mon année, mais dans le sens apprentissage. Je vous ai fait 2 épisodes sur le bilan, sur comment dresser un bilan, parce que je fais des bilans, mais le bilan des apprentissages, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je le faisais sur des projets professionnels, comment s'est passé le projet, qu'est-ce que j'ai appris de ce projet, etc. Mais je n'ai jamais pensé à le faire sur ma vie personnelle. Alors je vous propose qu'on le fasse ensemble dans cet épisode et je vais justement vous parcourir 10 apprentissages que m'a appris cette année. Et je vous invite vivement, après avoir écouté les miens, à aussi essayer de dresser vos apprentissages. C'est vraiment un exercice que je trouve extraordinaire. Alors l'année 2022 a été assez mouvementée pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le déménagement de Paris vers Casablanca, l'arrivée de bébé 2, la fin de mon cursus en psychologie, les 70 ans de mon père. Mais là, nous allons vraiment parcourir ce bilan sur le plan apprentissage. Alors, il n'y a pas de hiérarchie entre ces différents apprentissages. Le premier n'est pas plus important que le deuxième, que le troisième, etc. C'est juste vraiment une liste. Mais j'ai voulu ne garder que les points qui sont assez spécifiques à cette année. Alors, le premier point ne va peut-être pas vous surprendre, parce que je vous ai fait 2 épisodes sur le bilan, un cet été et un en fin d'année. Mais je me suis rendu compte cette année que le plus souvent tu fais le bilan de manière intentionnelle, le plus souvent tu te propulses vers l'avant. Et pourquoi je dis que cet apprentissage est assez spécifique à cette année? Parce que je n'ai commencé à faire le bilan de manière intentionnelle, j'insiste sur le mot intentionnel, qu'il y a quelques années, et ce n'est que cette année que je commence à récolter les fruits de ce bilan. Ce n'est que cette année où je commence à justement profiter de ce que j'avais planifié. Typiquement, il y a 4 ou 5 ans, je planifiais déjà de rentrer au Maroc, mais ça ne se concrétisait pas parce que c'était un processus qui était en cours. J'avais mis pas mal de choses en place pour pouvoir rentrer dans un certain confort et préparer le terrain. Mais rien ne se voyait, rien ne se vivait, je n'ai pu en profiter que cette année. Et je me suis dit que en 2022, tiens Leïla, tu sais ce que tu étais en train de faire sur un coin de table en 2018, 2019, 2020, eh bien aujourd'hui, tu es en train de le vivre concrètement. Aujourd'hui, tu peux te remercier d'avoir fait cette réflexion, d'avoir réalisé ces actions pour être là où tu es aujourd'hui. Parce que sans cette projection, sans cette recherche de ce dont j'avais envie, sans cette définition de la démarche à adopter, je ne serais peut-être jamais rentrée au Maroc, ou alors je serais peut-être rentrée mais pas dans les mêmes conditions. Et cela n'aurait jamais pu se faire sans que je fasse le bilan et que je me dise ben, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller dans la direction que je veux. Et je vous invite, si cet exercice vous intéresse, à aller voir l'épisode d'avant, donc je pense épisode 70, et puis un épisode que j'ai enregistré cet été. Ce sont respectivement, donc pour cet été, l'épisode 60 et en fin d'année, c'est l'épisode 70. Le deuxième point, c'est un point qui est assez relié à l'intuition, mais je le formule de manière assez basique et banale, c'est que si tu penses que quelque chose ne va pas, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans cet apprentissage, l'idée n'est pas de vous inquiéter davantage, mais juste de vous inviter à écouter votre intuition. Cela peut être au niveau des maladies, parfois on peut avoir mal à la tête ou certaines douleurs récurrentes, et se dire « c'est pas grave, ça va passer » et éviter de consulter. Donc sans tomber dans le paranoïa bien sûr, je pense qu'il faut rester à l'écoute de son corps et consulter lorsqu'on a un doute, quitte à ce que le médecin nous dise ben, « très bien, madame ou monsieur, vous n'avez rien ». Plutôt que de se retrouver eh bien, dans quelques années à aller voir le médecin et à vous dire ben, « vous auriez dû peut-être faire ça il y a quelques années, c'est peut-être un peu trop tard ». Mais là où je vous ai dit « c'est un peu spécifique à mon année », c'est qu'il y a l'arrivée de bébé 2, donc bébé Sarah, je vais arrêter de l'appeler bébé 2, donc l'arrivée de Sarah. Et je me suis rendu compte que je ne sais pas si c'est le fait d'être rentrée au Maroc ou si c'est le fait que c'est mon deuxième enfant. Mais dans tous les cas, je me suis rendu compte que je suis plus détendue, mais aussi plus à l'écoute de ses besoins. C'est-à-dire que lorsqu'elle pleure, même si autour de moi, on me dit « laisse-la pleurer », elle n'a rien, eh bien je préfère aller vérifier, parfois c'est la couche, parfois elle a faim, parfois elle est juste dans une position inconfortable, ou autre, eh bien je préfère répondre à ce besoin-là et je me rends compte qu'en fait, ça la calme. Et que j'avais raison de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que son corps à elle aussi, lorsqu'il pleurait, eh bien il disait simplement « il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-moi ». Il y a quelques années, dans le travail, je sentais que eh bien, le chemin que j'avais pris n'allait pas être adapté si je voulais passer du temps avec ma famille, avec mes enfants. Et donc je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et justement, c'était quelque chose qui n'allait pas parce que mon projet de vie n'était pas très compatible avec ma profession. Je ne regrette pas aujourd'hui de m'être posé la question à ce moment-là, d'avoir commencé à réfléchir et à explorer des solutions. Car cela m'a permis eh bien, de créer une nouvelle situation où je suis à l'aise, où j'aime mon travail, je lui consacre du temps et de l'énergie, sans pour autant empiéter sur mon temps avec mes filles, avec ma famille. Et c'est un critère qui était très important pour moi, donc je suis contente de m'être écoutée et d'avoir écouté quand ça n'allait pas, d'avoir activé les supports nécessaires pour changer ma situation, de m'être fait coacher et d'en être là où j'en suis. Troisième apprentissage, ce que pensent les autres leur appartient. Et là, je pense que c'est peut-être spécifique au contexte de changement de pays. J'ai senti en arrivant au Maroc que chacun avait son mot à dire sur comment tu devrais vivre, penser, agir et interpréter selon ses propres croyances ses propres insécurités, ce que tu peux dire, faire ou penser. Et aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient avec un regard des autres qui dicte comment ils devraient vivre, qui dicte comment ils devraient agir, comment ils devraient penser, et que c'est très contagieux. C'est une maladie qui est très contagieuse. Mais malheureusement, on ne peut jamais maîtriser ce que disent ou pensent les autres. Et cette phrase, je la trouve très utile, en fait, pour avancer, faire son chemin, bien sûr, prendre le feedback quand il est bon, quand il nous convient, quand il va dans la direction qu'on veut prendre. Mais utiliser cette phrase de « ce que pensent les autres leur appartient, ça ne t'appartient pas », ça veut aussi dire prendre du recul par rapport à ce que disent les autres. Et aussi, en fait, ne pas se créer des freins imaginaires, ne pas se dire « eh bien, si je fais ça, cette personne, elle va peut-être penser ça de moi » ou... Alors, ça, j'essaie vraiment de ne pas y prêter attention. Je fais ce que je pense être bon. Je fais avec le concept assez maintenant médiatisé de NIA en 2022. NIA, tant que NIA, ton intention, elle est bonne, tant que toi, tu sais ce que tu es en train de faire, tant que voilà, tu as une pensée claire, tu as une volonté qui est positive, tu as une dynamique constructive, tu ne peux pas contrôler la réaction ou ce que pensent les gens, et en fait ça leur appartient. Donc du moment que toi tu fais ça avec cœur, eh bien ça leur appartient de penser ce qu'ils veulent. Et c'est une manière de se responsabiliser par rapport à ce qu'on fait, de ne pas dire ben je l'ai fait parce que j'ai fait comme les autres. Non, je l'ai fait parce que je pense que c'est bien, parce que c'est dans ma vision, parce que c'est dans mes valeurs. Et aussi, s'enlever le poids de la responsabilité de ce qui ne nous appartient pas. Et c'est extrêmement soulageant, responsabilisant et aligné avec qui nous sommes et avec ce que nous voulons faire. Le quatrième apprentissage, c'est un apprentissage un peu à la dure. Vous allez peut-être vous dire, c'était une année compliquée pour moi. Quand je lis tout ça, je dis oui, c'était peut-être un peu compliqué. Bon, je n'ai pas cette impression, mais en lisant tous ces apprentissages, je me dis ah oui, c'était peut-être un peu galère. Le quatrième apprentissage, c'est tu dois être le premier à te venir en aide, le reste est optionnel. Je le répète, tu dois être le premier à te venir en aide, le reste est optionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et pourquoi c'est spécifique à mon année. Donc quand je suis rentrée au Maroc, bien sûr, tu t'attends, vu que tu t'approches de ta famille, qu'il y a plein de gens que tu voulais rencontrer, qu'il y a plein d'espoir dans le fait de construire de jolies choses, dans le fait de passer plus de temps avec ses proches, d'avoir leur soutien, etc. Il y avait peut-être cette attente à ce que je sois aidée dans ma démarche. Et donc j'avais l'impression de demander plus d'aide autour de moi que de chercher la réponse en moi. Chose que j'avais arrêté de faire depuis plusieurs années parce que j'étais indépendante. Je faisais un peu tout par moi-même et je résolvais mes problématiques moi-même. Et donc cette attente vis-à-vis des autres crée de la frustration et peut aussi détériorer les relations. Parce qu'il y a des attentes et chacun de nous, eh bien, vit sa vie. Il a ses contraintes et s'appuyer sur l'autre ne peut être que frustrant lorsque l'aide n'est pas à la hauteur des attentes. Et lorsqu'on reste dans ce schéma-là, eh bien, déjà de une, on ne se responsabilise pas, et puis ensuite, cela détériore nos relations parce qu'on se dit que peut-être ces personnes auraient dû répondre à ses besoins, alors que ce n'est pas forcément vrai, chacun a fait sa vie. Et le fait de se dire « tu dois être le premier à te venir en aide, le reste est optionnel », est à la fois responsabilisant, et permet aussi de réduire les attentes vis-à-vis de nos proches, de notre entourage, de nos amis, de tout ce que tu veux, et de maintenir des relations saines. Le cinquième apprentissage, c'est la vie, c'est des phases. N'oublie pas de vivre celle où tu es et de construire pour le futur. Et ça, c'est peut-être pas très spécifique à cette année, mais je l'ai ressenti depuis quelques années, c'est que j'ai traversé plusieurs phases. J'ai traversé une phase très dynamique où j'étais très concentrée sur mon travail. J'ai traversé une phase d'enfance, une phase d'études, une phase de jeune couple, etc. Et puis à chaque phase, il y avait des envies différentes, mais qui étaient propres à cette phase-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bien, aujourd'hui, si je me concentre sur ça, ça veut peut-être dire aussi que je délaisse certaines choses par ailleurs. Et ce n'est pas, par exemple, parce que aujourd'hui j'ai délaissé certaines parties qui sont moins importantes, que je n'y reviendrai pas plus tard. Je cite à titre d'exemple, et peut-être que les jeunes mamans se reconnaîtront là-dedans, lorsqu'on a des enfants en bas âge, eh bien la sociabilisation, ce n'est pas quelque chose qui reste un point fort. Nous avons tendance peut-être à accorder plus de temps à la famille, aux enfants, et peut-être un peu moins de temps au monde extérieur. Et c'est ok, cela ne veut pas dire que ça va toujours rester comme ça. Cela veut simplement dire que c'est une phase dans la vie où nos enfants sont petits, où ils ont besoin de plus d'interactions avec nous. Et si ça se trouve, lorsqu'ils vont grandir, eux aussi ils vont demander des interactions extérieures, ils n'auront plus autant besoin de nous. Et à ce moment-là, eh bien, notre vie va aussi changer. Et le fait de lâcher prise sur ces choses-là, le fait de se dire que tout ça c'est une phase, que c'est transitoire, ça permet de sortir d'un schéma où l'on regrette ce que l'on a eu avant. Là, j'ai parlé de la maternité parce que ça me concerne personnellement, mais c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à votre vie, peu importe la phase où vous êtes dans votre vie. Il y a des phases qui peuvent être plus difficiles que d'autres et vos besoins ou vos envies vont changer dans cette phase-là. Et lorsque je dis n'oublie pas de vivre la phase où tu es, de construire pour le futur, donc vivre, décomplexer, sortir un petit peu se vider de ce « oh bien ça je le fais plus, je fais plus par exemple mon sport, je fais plus plein de choses », si on est dans une phase où il y a beaucoup de travail, travail, ou alors si on est une phase où on travaille pas du tout, de se dire « oh là là, je passe mes journées à ne rien faire », enfin, vraiment vivre la phase où nous sommes et se dire « c'est toujours une phase transitoire », et sans prendre des décisions qui ne prennent en compte que votre situation actuelle, c'est là où j'utilise le point où tu es en train de construire pour le futur, c'est aussi se donner en tête des paramètres, de se dire ben, ça ne va pas toujours être comme ça, donc lorsque je vis pour maintenant, je réfléchis aussi à un peu plus tard. Le sixième apprentissage, vous allez peut-être me dire que tout ça est un peu banal, mais le sixième apprentissage, c'est vraiment une grande claque. Être en bonne santé est un miracle. Vraiment, être en bonne santé est un miracle. Nous avons tendance à sous-estimer le fait d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir vivre correctement. J'ai accouché cette année par césarienne parce qu'il y avait des complications au niveau de la grossesse. Et personne ne m'avait dit avant qu'en fait, lorsque tu accouches par césarienne, eh bien, pendant 2 semaines, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas te lever. Et donc c'est un choc quand même pour le corps de se dire, eh bien, lorsque je commande mon corps, normalement il me suit, et que là, eh bien, je suis juste HS. C'est très désagréable de se voir aider à chaque fois, limite juste pour aller aux toilettes, chose qui paraît la plus basique pour tout le monde, mais que tu es en incapacité de faire. À ce moment-là, je savais que c'était passager, mais je pensais à toutes les personnes qui peuvent être hospitalisées pendant plusieurs années, des personnes pour qui il n'y a pas de retour en arrière, des personnes qui vont vivre comme ça pendant tout le reste de leur vie. Et je me dis qu'on a vraiment de la chance, on a vraiment de la chance d'être en bonne santé et que si ce don du ciel était gratuit, ce n'est pas une raison pour ne pas l'entretenir. Donc prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale qui va aussi venir impacter la santé physique et ne pas faire n'importe quoi, ne pas manger n'importe quoi, ne pas boire n'importe quoi, ne pas faire n'importe quelle activité qui peut détériorer notre santé. Franchement, je suis pas du tout en train de vous parler de faire des régimes ou quoi que ce soit, peu importe, c'est pas l'esthétique qui m'importe là-dedans, mais c'est juste par amour de ce corps, par amour de cet esprit, par amour de ce don du ciel, prendre soin de ce qu'on a. Le septième apprentissage, je dirais, ne te limite pas avant d'essayer. Et ça, je l'ai remarqué chez plusieurs personnes que j'ai coachées cette année, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des croyances limitantes, beaucoup qui sont capables de faire beaucoup de choses et qui pourtant n'essayent même pas. Donc déjà, ce sont des personnes qui ont fait le pas de se faire coacher, donc c'est déjà une minorité. Et ensuite, de cette minorité-là, les croyances limitantes sont incroyables. On se rend compte qu'ils ne font pas des choses, pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils se font croire qu'ils n'en sont pas capables ou qu'ils ont peur d'échouer ou. Bien sûr, nous travaillons sur ça. Nous travaillons sur leurs pensées, nous travaillons sur les émotions qui arrivent. C'est justement tout l'intention du coaching. Mais juste cette phrase de se dire « il ne faut pas se limiter avant d'essayer », je trouve qu'elle est puissante. Et c'est pas uniquement pour les personnes que je coach, hein, c'est quelque chose qui s'applique aussi à moi. J'ai voulu vivre et je vis toujours cette expérience de rentrer au Maroc comme une expérience. Je teste par moi-même, je vois les choses par moi-même, je réfléchis par moi-même. Je vais pas attendre feedback des personnes qui sont rentrées pour me dire « ah oui, ça leur plaît pas » ou alors « ça leur plaît super », etc. J'essaye et je me fais ma propre expérience et je me fais mon propre retour. Bien sûr, tout en étant ouverte au retour et au feedback des autres qui vont venir alimenter mon expérience et m'éviter de tomber dans des pièges dans lesquels ils sont tombés. Bien sûr, je dis jamais ne pas écouter les expériences des autres. Au contraire, c'est bien de les écouter pour faire attention. Néanmoins, si quelque chose vous attire, eh bien, essayez. Et le 8e apprentissage, c'est vraiment en lien avec le 7e, c'est « vis toute expérience comme un apprentissage ». Toute expérience comme un apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement dans l'expérience, de dire j'ai réussi ou bien j'ai échoué, donc il n'y a pas deux issues. Il y a, dans tous les cas, un apprentissage. Bon, Il y a plein de dictons, je ne sais plus lesquels, mais j'en ai vu passer tellement qui disent ben je n'échoue jamais, j'apprends, etc. Moi je dis j'apprends dans tous les cas, que je réussisse ou que j'échoue, j'apprends. Mais à une seule condition, je ne vais pas apprendre parce que j'ai échoué, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais apprendre parce que, je vais apprendre lorsque je vais m'asseoir avec moi-même et que je vais me dire ben, pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui a mal fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. C'est là où je vais apprendre. Je ne vais pas apprendre aussi juste parce que j'ai réussi, mais je vais apprendre de me dire ben, qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ça a fonctionné. Pour rendre la réussite une régularité et pas juste une réussite par miracle ou bien une réussite une fois tous les 10 ans ou une réussite par hasard. Non, il faut que la réussite soit soutenue aussi dans le temps. Et pour qu'elle soit soutenue dans le temps, c'est aussi bien de se poser la question, pas juste quand on échoue, mais aussi quand on réussit, de qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Et c'est pour ça que je dis dans cet apprentissage numéro 8, vis chaque expérience comme un apprentissage, quelle que soit l'expérience. Et en fait, le fait de le vivre comme un apprentissage, que ce soit un échec ou que ce soit une réussite, ça nous aussi nous libère du poids du fait qu'on réussisse ou pas. Parce qu'on se dit, de toutes les manières, je vais apprendre, de toutes les manières, j'en tire quelque chose. Et ça répond aussi à ce conseil 7 ou alors cet apprentissage 7, de se dire, ne te limite pas avant d'essayer, c'est de se dire, ben, j'essaye pour apprendre. Je n'essaie pas juste pour dire, parce qu'il y a des probabilités que ça marche, mais j'essaye aussi pour apprendre si ça marche ou si ça ne marche pas. Et j'ajuste, je réitère. Alors j'ai beaucoup travaillé dans le digital, dans une vie antérieure, et pas que dans une vie antérieure, je suis toujours en train de faire la même chose en parallèle, mais c'est ce qu'on appelle cette agilité, hein, cette agilité qu'on retrouve dans le code, qu'on retrouve dans le fait de définir une stratégie d'entreprise, dans l'agilité, c'est le fait de tester des choses, d'apprendre, c'est le test and learn, tu testes, tu apprends et tu avances. Et cette agilité, en fait, c'est aussi une agilité d'esprit, une flexibilité d'esprit, de se dire rester aware, rester ouvert, rester attentif à ce qui se passe et en tirer un apprentissage pour la prochaine itération et aussi pour la suite. Il y a une routine que j'aime beaucoup chez les personnes qui font du code et avec qui j'avais travaillé, ils appellent ça la rétrospective. Et on faisait ça toutes les semaines, on disait ben, comment s'est passée la semaine, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, qu'est-ce qu'on pourrait ajuster. Et en fait, c'est extraordinaire parce que même si on continue à avancer, même lorsque tout se passe bien, on fait cette rétrospective. Pas juste lorsque ça se passe mal. On laisse pas les choses aller et puis on dit « Ah tiens, ça se passe mal, il faudrait qu'on regarde pourquoi ça se passe mal. » Non, pendant que ça se passe bien aussi, eh bien on regarde qu'est-ce qui a fait que cette semaine ça se passe bien. Comme ça, on réplique la même attitude peut-être, la même action peut-être, le même process, la même routine aux prochaines semaines. Et dans la vie aussi, et pas que dans le travail, dans la vie aussi ça fonctionne comme ça. La neuvième et la dixième touchent aux relations sociales. La neuvième, pour moi, on ne vit jamais seul. J'ai beaucoup fait de télétravail ces dernières années, que ce soit avec le Covid, que ce soit aussi avec le déménagement. J'ai fait beaucoup de télétravail et je me suis rendu compte de l'importance de la connexion, de l'importance d'aller déjeuner avec quelqu'un, de l'importance de juste échanger quelques mots, échanger sur des expériences, juste rigoler, passer du temps ensemble. Et je suis en train de remettre ça dans ma vie, je suis en train de m'ouvrir davantage, essayer de travailler peut-être avec d'autres personnes, essayer de travailler aussi en local, essayer de rencontrer plus de personnes dans le cadre personnel. Et mine de rien, ça fait un bien fou, parce qu'on reste pas dans son monde, on reste pas enfermé chez soi, on reste pas enfermé avec soi, mais on s'ouvre aux autres expériences, on s'ouvre aux échanges et on s'enrichit les uns les autres. J'avais aussi pas mal de personnes qui vivaient la solitude dans les personnes que je coachais et la question que j'avais, c'est oui, très bien, mais je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment. C'est une habitude que j'ai prise à être seule et je ne sais pas comment en sortir. Pour les personnes qui vivent loin de leur entourage ou qui n'ont pas d'amis autour d'eux ou qui sont tout le temps en télétravail et qui n'ont pas leur entourage et qui n'ont pas d'amis autour d'eux, qui n'ont juste rien de tout ça, une chose que je pourrais peut-être vous conseiller, c'est d'aller dans des associations qui partagent les mêmes valeurs que vous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts. Typiquement, si vous aimez peindre, vous pouvez aller rejoindre une association qui fait de la peinture, qui fait du dessin, qui fait de l'art. Si vous aimez la photographie, vous pouvez aller faire des photos. Si vous aimez le sport, vous aimez le foot, le basket, le tennis, vous pouvez vous abonner à une association ou à un club ou à peu importe, hein, avec des gens qui vont faire les mêmes activités que vous. Pourquoi je dis ça ? Parce que cela va vous attirer naturellement vers des gens qui ont au moins quelque chose en commun avec vous. Donc le contact social va être plus simple et aussi plus agréable. Et je me rappelle d'une expérience qui m'avait beaucoup marquée. C'est lorsque j'étais à Paris et que j'ai commencé à assister à un cercle de lecture qui se passait à la mosquée de Paris, où on lisait on lisait les livres de Rumi et où on échangeait sur les apprentissages. On avait tous des backgrounds très très différents et pourtant je trouvais cet échange super enrichissant et j'attendais toutes les semaines cette rencontre avec impatience, sachant que j'avais quand même une heure de route pour y aller. Et voilà, c'est un temps vraiment de qualité avec quelque chose que j'ai choisi, quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être avec des personnes que je ne connaissais pas du tout avant, mais derrière, ça a créé des liens qui sont agréables, qui sont peut-être utiles, mais dans le sens conversation intéressante, pas juste des conversations qui ne nous intéressent pas. C'est dans ce sens-là, hein, utile. Et aussi quelque chose qui, voilà, qui y a un sentiment dans les yeux, les vôtres et aussi la personne qui est avec vous. Et c'est pour ça que je vais aller donc, mon 10e apprentissage. Et aussi social, c'est rien ne se force. Social ou pas, rien ne se force. Les bonnes choses et les bonnes rencontres viendront à toi au bon moment. Je suis très ouverte aux rencontres et je suis assez sélective aussi. Donc j'invite les personnes qui m'inspirent, les personnes que je trouve agréables et ensuite je laisse le temps faire son travail. Peut-être que ces personnes-là, eh bien, ce n'est pas dans leur priorité aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le bon moment ou alors peut-être que si, il y en a qui s'activent super rapidement. Et je ne prends pas ça personnellement. Je me dis, ben, ce qui vient, c'est que c'est une bonne chose. Et ce qui ne vient pas, c'est que peut-être ce n'est pas une bonne chose ou que ce n'est pas le moment. Et c'est OK. Mais cela ne va jamais m'empêcher de continuer à aller vers les gens et de me dire, ben, attention, t'es parti vers les gens, tu t'es fait refouler. Parce que je ne le prends pas personnellement. Et c'est aussi ce qui peut être un frein social, hein, cette peur d'être rejeté. Qui n'a pas lieu d'être en fait. Donc voilà, ce sont mes 10 apprentissages principaux. J'en ai listé plusieurs, mais je vais essayer de garder un épisode pas trop long. Ce sont 2 années que j'ai passées avec ce micro, que j'ai passées avec vous. Un grand merci pour m'avoir suivi jusque-là. Bien sûr, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Pendant ces 2 années, j'étais seule au micro et je vous ai fait 2 points sur le social et le partage. J'aimerais bien cette année pouvoir inviter d'autres voix à ce micro-là, avec des échanges, des interviews, si vous êtes ouvert à ça. Donc attendez-vous cette année à avoir de temps à autre quelques personnes qui partagent mon micro dans un échange qui va dans le sens du podcast Vivre, qui va vraiment dans le sens d'améliorer notre vie, de réfléchir sur comment avoir une vue plus agréable, d'enrichir nos différentes perspectives. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me laisser un rating 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify, ça me fait super plaisir. Et c'est un clin d'œil à ces 2 ans de podcast. Merci, mille merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre. Prenez soin de vous.